Point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour madame Felice.
Bonjour,
vous allez bien?
Très bien.
Alors c'est notre émission Point de vue, une émission proposée par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et nous avons des invités encore aujourd'hui, notre marraine Pauline Martin qui va venir faire son petit tour. Est-ce que vous pouvez, ma chère Diane, nous présenter notre invité?
Qui on reçoit aujourd'hui? Alors, on a le privilège de recevoir Maître Marie-Douce Fugère, qui est avocate. Madame Fugère est une femme de cœur et vous allez voir, elle a une feuille de route très impressionnante.
Merci beaucoup, Madame Fugère, d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invitée.
Très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez une cécité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une cécité partielle?
Je pense qu'on peut le dire. Écoutez, faudrait demander à qu'est-ce qui est politiquement correct de dire. mais en gros, je ne vois vraiment pas parfaitement. Je ne suis plus capable de lire. Je n'ai pas de vision nocturne, mais je vois encore quelques ombres.
Et est-ce que c'est à la naissance ou c'est arrivé progressivement?
C'est arrivé progressivement. C'est-à-dire que j'ai déjà beaucoup mieux vu, mais je n'ai jamais vu parfaitement. Alors, à la naissance, déjà, j'avais un champ visuel restreint. Et vers l'âge de 11 ans, la vision a commencé à baisser tranquillement. J'ai arrêté de lire environ vers l'âge de 17 ans. Je suis passée ce qu'on appelle en mode non-voyant, donc en utilisant le braille et principalement les synthèses vocales à l'âge de 25 ans.
Maintenant, tout ça, ça ne vous a pas empêché de faire vos études en droit à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez entrepris une carrière de quelques années à l'Assemblée nationale du Québec, à la Direction des affaires juridiques et parlementaires. Comment vous êtes arrivé, entre autres, à l'Assemblée nationale? Je suis curieux.
Ah, bien écoutez, ça c'est un... la vie est faite de beaux hasards, hein, vous savez. Pendant mes études, je n'étais pas encore certaine de ce que je voulais comme carrière. Je me laissais toutes les portes ouvertes. Alors, quand j'ai fini l'école du barreau, au lieu d'aller directement faire mon stage, j'avais décidé de commencer une maîtrise en droit social à l'UQAM, alliant féminisme, droit et handicap. Et finalement, ben, écoutez, c'était en janvier 2012, je suis tombée dans le printemps étudiant à plein pied. J'ai donc commencé à regarder tranquillement les offres de stage pour le barreau au lieu de continuer la maîtrise. Et j'ai vu cette offre-là à l'Assemblée nationale. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai été appelée en entrevue. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas vraiment une entrevue. J'avais été choisie sur dossier. Alors, je me suis rendue là-bas.
Vous aviez été choisie sur dossier.
Exactement. Oui. Alors, c'est Maître Annie Chrétien qui a été mon maître de stage, qui avait été fort impressionné déjà par mon CV, par ce qui transparaissait, disons, dans tout ça, dans ce CV-là. Et j'avais été choisie sur dossier, je suis allée là-bas, j'ai eu à peu près 10 minutes de, en guillemets, entrevue, pour finalement me faire dire, ben nous, on est prêts à vous accueillir, vous commenceriez dans un mois, signez-là. Alors, ne connaissant pas Québec, je me suis adressée rapidement au Centre de réadaptation déficience physique de Québec parce que, ben, il fallait que je connaisse un petit peu la ville avant d'y aménager. Alors, en un mois, je me suis trouvée un appartement. J'ai fait du démarchage pour me trouver un endroit pour vivre, pour me trouver un quartier qui allait être approprié, pas trop loin de l'Assemblée nationale. Et j'ai commencé là. Alors, j'ai fait mon stage chez moi. Et après ça, j'ai continué pendant un petit bout de temps. On m'a offert un poste d'avocate. À la fin de mon contrat, ils voulaient me renouveler, mais l'amour me ramenait à Montréal. Donc, je suis de retour à Montréal depuis déjà 2 ans et demi.
Vous avez abordé votre curriculum vitae, j'y suis arrivée. Donc, on constate à sa lecture que vous avez justement un grand sens communautaire. Vous avez de nombreuses implications, dont Amnesty International, l'Association des étudiants handicapés de l'UQAM, aussi même le comité des usagers de l'Institut Nazareth Louis Braille. Donc, toutes ces implications, qu'est-ce que ça vous apporte?
Ah, ça m'apporte beaucoup. C'est pour moi une façon de redonner à la société. Vous savez, quand on est une personne qui est vivant avec une déficience visuelle, c'est sûr que on est capable de donner à la société. C'est sûr que maintenant, comme je dis souvent, je paye des impôts et je m'en suis fière. Et ça, c'est beaucoup l'Institut Nazareth Lubraille avec les services de réadaptation qui ont permis ça. Par contre, c'est sûr que ça coûte des sous à la société au départ, si ce n'est que d'aider aux études, etc. Dans cette optique-là, pour moi, c'est important de redonner à la société. Donc, c'est important de redonner via du comité des usagers, notamment, pour donner un input sur les services qui sont reçus pour aider à l'amélioration de la qualité de vie des gens. Maintenant, Amnesty International, c'était aussi pour faire changer les choses, parce que Amnesty International, ça fait déjà quelques années où je me suis impliquée, mais je peux vous dire que Amnesty, ça amène un grand sentiment d'être utile. Vous savez, Amnesty International, c'est 3 libérations de prisonniers politiques par jour. Prisonnier d'opinion, je suis désolée. Donc, 3 libérations par jour, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est l'implication d'un peu tout le monde, d'un peu tous les membres. Donc, ensemble, on peut faire changer les choses.
Dans vos implications, justement, vous avez certainement fait des rencontres qui ont été plus marquantes que d'autres. Vous voulez nous en parler de quelques-unes?
Ah, mon Dieu, oui. C'est sûr que ça nous permet, de l'implication comme ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires ou des gens qui deviennent plus proches. Les rencontres, il y en a plusieurs, des rencontres importantes. Moi, j'ai une amie qui maintenant est très, très proche de moi, avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai fait des 400 coups, Josiane Gosselin-Dubois, que j'ai rencontrée justement chez Amnesty International. On est devenus tellement proches, j'ai célébré son mariage il y a quelques années. Mais au sens de rencontres impressionnantes, disons, je nommerais peut-être 2 personnes. Je nommerais d'abord Béatrice Vaugrande de chez Amnesty International, qui est la directrice de la section Canada francophone. Béatrice, c'est quelqu'un qui est né en France, qui a fait les grandes écoles, qui était dans des grandes entreprises de gestion, donc qui était vouée à une carrière vraiment impressionnante. Et elle a décidé de tout laisser là, et de venir donner de son temps et de son expertise dans une cause qu'elle croyait. Donc, premièrement, Béatrice, c'est quelqu'un qui, justement, est impressionnant comme ça, parce qu'elle a décidé de travailler avec ses valeurs. Et Michel, vous serez d'accord si je nomme Lynn Amplement, qui est, je pense, encore présentement présidente du conseil d'administration de la Fondation et qui a été directrice générale de l'Institut Nazareth Lubraille pendant longtemps. Lynn, pour moi, c'est quelqu'un... Pour une jeune professionnelle comme moi qui commence sa carrière, je pense qu'au Québec, si on avait plus de femmes de tête comme Lynn, des femmes qui sont des gestionnaires passionnées, je pense qu'on serait plus proche de l'égalité homme-femme qu'on l'est présentement.
Vous avez, dans tout le cheminement que vous avez fait, tant au niveau des études qu'au niveau du travail que vous avez fait. Vous étiez jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, à la Société d'assurance automobile du Québec. On sent chez vous un désir profond. Vous êtes une battante et vous souhaitez faire changer les choses. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses dans notre société à faire pour les personnes en déficience visuelle?
Absolument. Il reste encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. C'est sûr qu'au Québec, on est mieux que dans beaucoup d'autres régions de la planète. Par contre, je vous dirais qu'il faut garder les yeux grands ouverts. Il y a parfois une baisse de la qualité des services, même à Montréal. Et c'est fort problématique parce qu'il faut réaliser que la réadaptation, c'est ce qui va permettre l'intégration au travail par la suite. Donc, ultimement, comme je le disais tantôt, c'est ce qui permet de payer des impôts à la fin de l'année. Quand on le voit comme ça, c'est sûr que c'est mercantile, mais il faut garder les yeux ouverts, il faut garder la qualité de vie très quand même haute pour être capable de participer à la vie québécoise.
Si vous aviez à qualifier l'Institut Nazareth et Louis Braille, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, l'Institut? Parce que vous êtes arrivée très jeune, j'imagine, à l'Institut.
Absolument. Je pense que, ben moi, je n'ai pas de souvenirs. Alors, je vous dirais c'était quand j'étais bébé. peut-être que ma mère pourrait plus vous en parler que moi, mais l'Institut, ça m'a apporté une autonomie nécessaire et une autonomie inespérée.
Et cette autonomie-là vous permet aujourd'hui d'être une femme complète au niveau de travail et tout ça, vous fonctionnez tout à fait normalement.
Je fonctionne tout à fait normalement. C'est sûr qu'il y a toujours des défis. Il y a toujours des petits moments où on fait « voici une nouvelle tâche, comment je vais y arriver, comment je vais l'adapter? » Donc, c'est sûr que c'est des questionnements souvent. Alors, c'est pour ça que l'Institut est encore là. C'est pour ça, moi, je dis souvent, d'ailleurs, en entrevue à mes employeurs, c'est sûr que moi, j'étudie en droit, j'ai pas étudié en réadaptation. Il y a des intervenants qui sont spécialisés, qui font ça à journée longue. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Je pense que je suis une fille pas pire pour réfléchir à comment faire les choses puis essayer d'adapter les choses. Quand je suis rendue au bout de mon rouleau, bien, c'est là où j'appelle les intervenants pour qu'ils me donnent des cues, pour qu'ils arrivent à imaginer quelque chose avec moi.
Qu'est-ce qui vous a permis d'aller au bout de vos études? Parce que j'imagine que quand on ne voit pas, il y a certainement des défis qui viennent avec le fait d'étudier.
Oui, c'est sûr qu'il y a des défis, si ce n'est que l'adaptation des livres. C'est sûr que moi, ça fait déjà 5 ans que j'ai fini mon bac, donc probablement que c'est de plus en plus facile maintenant. Mais du temps où j'ai fait mon bac, dans les premières années, souvent le temps que je fasse adapter les livres, ils arrivaient peut-être une semaine ou deux avant la mi-session et l'examen était à la mi-session. Alors, disons que l'apprentissage rapide est une de mes forces.
et les qualités que ça vous a pris pour passer à travers, il y a l'apprentissage rapide certainement, mais...
L'organisation, c'est très important, je pense, parce que l'organisation va permettre justement d'optimiser le temps et les outils nécessaires.
Avant de passer à notre petite pause musicale et à notre prochaine chronique, Diane, la première fois que j'ai rencontré Marie-Douce, la chose qui m'a frappé le plus, c'est sa joie de vivre.
Oui.
Et j'aimerais savoir, Marie-Douce, ça vient d'où, cette joie de vivre que vous avez et ce que vous projetez?
Oh là là! Mais d'abord, merci pour le compliment. Je vais le prendre comme ça. écoutez, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Des fois, souvent quand on est handicapé visuel, à l'adolescence, on vit des choses pas trop le fun. Puis un jour, j'ai décidé que c'était fini puis que j'allais être positive dans la vie. Donc, je l'applique maintenant, toujours, à tous les jours, d'essayer de garder le sourire. D'ailleurs, même au travail, quand arrivent les moments, disons, à la fin de la semaine, les vendredis, je trouvais ça plus difficile. Je disais à la blague, oh, c'est vendredi, je suis de mauvaise humeur. Puis mes collègues faisaient, ben voyons donc. Ah oui!
Qu'est-ce que vous dites à une adolescente, justement, qui vit une situation comme vous avez vécue? Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne, à cette adolescente?
De ne pas hésiter à les partager avec les autres. Souvent, maintenant, et ça m'inclut, on a été intégrés à l'école régulière, ce qui est vraiment un bienfait pour la plupart des gens. Donc, ce qui est vraiment quelque chose pour lequel je pense, en tout cas que j'approuve beaucoup dans l'intégration. Mais ce qui fait que les jeunes ne se connaissent plus entre eux, les jeunes avec une déficience visuelle. Donc...
De briser l'isolement.
Alors, c'est quand même important. C'est sûr qu'on a des amis, en guillemets, voyants. On pourrait dire moldus pour les gens qui ont lu Harry Potter. Alors, c'est sûr que c'est important d'avoir des amis voyants, mais d'aller chercher à parler à d'autres adolescents qui vivent la même réalité que nous, c'est important. Puis ça permet d'accepter, disons, les défis qui arrivent vers soi, les défis qui peuvent être d'ordre émotif plus qu'on pense, d'ordre social. Et c'est sûr qu'à la suite de ça, quand c'est fini, mais ça fait des amis... des amis à vie. Voyez, ce soir, je vais à la fête d'une amie d'adolescente que j'ai rencontrée à la Fondation des aveugles du Québec quand on avait 12 ans et on est toujours comme les deux doigts de la main. Et c'est ça, c'est l'adolescence, c'est les moments de partage qui nous ont autant rapprochés.
On passe à une courte pause et on est de retour à Point de vue. Pour nous parler maintenant de l'Institut Nazareth et Louis Braille, nous recevons aujourd'hui Mme Linde Brissette. Mme Brissette, bonjour.
Oui, bonjour, Michel.
Et vous pouvez nous rappeler vos tâches, chère madame, à l'Institut.
Oui, je suis présentement chef de deux équipes, l'équipe du programme sur 10 et cité, qui est un programme conjoint entre l'Institut Nazareth-Louis Braille et l'Institut Raymond-Dehors, ainsi que l'équipe aînée Montréal-Laval, qui donne des services aux personnes de 65 ans et plus.
Madame Brissette, comment fonctionnent les services de réadaptation en surdicité?
Oui, les services de réadaptation en surdicité ainsi que les autres services de réadaptation offerts par l'Institut fonctionnent en se centrant sur les besoins exprimés par la personne.
Donc, c'est très personnalisé.
C'est personnalisé. La personne qui a une déficience visuelle ou une surdicité ou une double déficience sensorielle, vit des difficultés dans sa vie de tous les jours. Et à certains moments, elle peut vouloir s'investir, essayer d'améliorer son autonomie face à ces difficultés-là. Les difficultés peuvent être de tout ordre. Lire son courrier parce que la personne développe une pathologie visuelle. Ça peut être d'établir des contacts sociaux parce que la personne vit un isolement. Ce qu'on fait en réadaptation, c'est qu'il y a un intervenant qui s'assoit avec la personne, qui fait le tour de ses habitudes de vie, puis qui essaie de voir quelles sont les difficultés vécues et qu'est-ce qui est la priorité de la personne. Parce que parfois, l'entourage ou les intervenants peuvent voir un besoin, mais la personne avec une déficience visuelle elle-même, c'est pas ce qui est primordial. Fait que donc, il faut s'asseoir avec elle, regarder son besoin. Et on établit un objectif pour un épisode de service. Les services ne sont pas à vie. La personne va s'investir pendant un certain temps, on va trouver un besoin, on va travailler et on va réviser. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Est-ce que ça va mieux dans cette sphère-là? Et quitte à se fixer un autre objectif plus tard. Et la personne peut continuer, mettre en pratique ces choses et si dans quelques mois ou quelques années plus tard, il y a un autre besoin qui émerge, mais elle fait un appel à l'accueil évaluation, elle réouvre son dossier et on fait un autre bout sur un autre besoin. Donc, c'est personnaliser nos objectifs.
Plus concrètement, est-ce que vous avez un exemple, un client, une personne donc arrive chez vous? Alors, racontez-nous une histoire sur un service que vous avez déjà donné. Comment ça a changé la vie d'une personne?
Bien, je peux vous donner un exemple typique. C'est une personne qui a été sur le marché du travail pendant un certain temps. Les déficiences sensorielles, visuelles et auditives ont augmenté. Elle n'a pas pu se maintenir en emploi. Donc, la communication est devenue plus difficile et la personne s'est isolée. Tout demande un grand effort. Et c'est sûr que la personne peut vivre des états où elle est un petit peu plus déprimée, elle a plus de difficultés à se mobiliser. Mais à partir du moment où on peut, avec elle, suite à sa demande, établir des petits objectifs. On va, par exemple, améliorer son sentiment de sécurité dans ses déplacements. La personne pourra faire certains déplacements, demeurer active, réintégrer des activités. Par exemple, on a un partenariat avec le Y, Hochelaga Maisonneuve, pour des activités sportives avec de l'accompagnement. Donc, la personne a pu prendre des routines de vie, participer, se lever, avoir un but en se levant le matin. Elle peut reprendre confiance en soi et suite à ça, elle peut développer d'autres habiletés et éventuellement peut-être réintégrer certains emplois adaptés à sa situation.
Il y a beaucoup de monde autour d'un usager, autour d'une personne.
En surdicité, la personne a un problème auditif et visuel. Parfois, c'est aussi une situation qui peut se dégrader au niveau des capacités. Et il y a un besoin de collaboration. Ce n'est pas un seul intervenant qui va répondre aux besoins. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plusieurs intervenants qui collaborent ensemble et qui aident la personne. Tout le monde fait équipe. La personne avec une déficience visuelle est partie prenante là-dedans. Là. C'est elle qui a à s'impliquer, qui a à appliquer certaines recommandations, qui a à utiliser les adaptations et avec le soutien de son équipe d'intervenants. Donc, il y a parfois plusieurs personnes et on appelle ça le travail interdisciplinaire. Il y a une synergie, les gens peuvent se conseiller et on est meilleurs tous ensemble.
J'imagine que vous donnez un sérieux coup de main aux gens qui entourent la personne qui a une déficience.
Oui, c'est une bonne question parce que l'entourage vit les conséquences de la surdicité. Elles ont parfois à être patientes, à répéter, à utiliser des stratégies de communication. Et c'est jamais fini. T'sais, on a beau connaître les stratégies, mais il faut penser. Je parle lentement, je m'approche de la personne. Pour sa lecture, les besoins sont tel éclairage. Ça demande toujours une collaboration de tout le monde, là. Et l'entourage, parfois, en fait beaucoup. Parfois, en fait trop. Il faut laisser l'autonomie à la personne. C'est en voulant bien faire, parfois, on surprotège. Donc, il faut laisser la place à la personne qui a une déficience visuelle pour qu'elle utilise ses capacités aussi.
De quelle façon vous en arrivez à motiver la personne? Parce que la personne doit vouloir aussi. Elle est dans sa déprime, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
De quelle façon vous en arrivez à motiver la personne? Elle joue un rôle extrêmement important dans sa réadaptation.
Oui, puis il faut trouver une petite bougie d'allumage. Il y a des choses auxquelles on tient. Il y a des choses que les gens veulent reprendre. S'ils peuvent plus, tu sais, quelqu'un qui a été un bon lecteur, qui est plus capable, qui est fatigué de lire avec une loupe, qui n'est pas capable de prendre plaisir à lire son roman, va falloir travailler avec lui, puis il y a peut-être un moyen alternatif, comme la lecture sonore. C'est pas pareil. La personne n'aimera peut-être pas ça au départ, mais il faut comme la mettre en situation aussi, l'encourager, qu'elle vive des petits succès. Souvent, dans la réadaptation, c'est ça qui va permettre d'aller à une autre étape. C'est de vivre un succès en faisant les choses autrement.
Comment les gens arrivent chez vous? Est-ce qu'ils sont référés par quelqu'un ou ils vous contactent directement?
Ils peuvent être référés par des professionnels du réseau de la santé. C'est souvent des audioprothésistes qui peuvent nous référer ou des CLSC. Mais les personnes peuvent aussi communiquer directement avec les services d'admission orientation des constituantes INLB ou IRD. Il y a des critères d'admission au niveau de leur perte visuelle, leur perte auditive. Ils ont besoin d'apporter aussi certains documents qui montrent quelle est leur situation de santé oculaire, leur pathologie, leurs évaluations de base, parce qu'on commence à travailler avec ça. C'est ça. Les gens peuvent être accompagnés aussi par quelqu'un de leur entourage pour faire ces démarches lourdes, si c'est difficile pour eux.
Mm-hmm. Allez-y.
Quel est le grand changement dont vous avez été témoin?
Vous parlez au niveau de
la personne.
Au niveau de la personne.
Oui, oui.
Ça a été, je pense, un jeune adulte que j'ai connu avec beaucoup de difficultés, qui avait beaucoup de difficultés à même affirmer ce qu'il veut, oui ou non, qui a réussi avec ses capacités à apprendre à communiquer davantage au niveau de l'informatique, qui est allé à l'éducation des adultes pour être surtout en contact social avec d'autres personnes, mais en même temps développer d'autres habiletés, d'autres connaissances, et qui maintenant vit seul en appartement en étant complètement sourd et aveugle et qui travaille au niveau de son immeuble qui à temps partiel comme concierge. Je trouve que c'est un bel exemple d'autonomie.
Vous, pour les deux petites minutes qui nous restent, j'aimerais vous entendre sur le fait que vous faites ce métier-là depuis très, très longtemps. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui dans le métier que vous faites?
Je pense que ce qui nous anime, c'est la progression de nos clients. C'est d'être proche des personnes qui ont des déficiences sensorielles. C'est de pouvoir, en même temps, compter sur des ressources qu'on a au Québec qui peuvent nous aider. On est chanceux, la régie d'assurance maladie peut offrir certains accès à des aides techniques. Il y a l'évolution des connaissances aussi. On connaît mieux ce que peut apporter l'éclairage pour mieux fonctionner. Les intervenants peuvent aider à utiliser les capacités résiduelles de la personne au plan visuel ou auditif. Il y a des avancées comme l'implant cochléaire qui permet une meilleure communication pour des personnes qui étaient sourdes profondes. Les appareils auditifs sont plus performants. Puis, on a des équipes complètes aussi pour tenir compte des aspects psychologiques et sociaux qui ont un impact sur la personne.
Donc, le travail n'est pas terminé, Mme Brissette?
Ça ne sera jamais terminé, mais c'est quand même très stimulant.
Bien, on vous souhaite une très, très longue carrière et vous saluez toute votre équipe. On en a parlé dans une émission antérieure, qu'il y a même des gens qui sont en déficience visuelle et qui travaillent avec vous. Et c'est extraordinaire ce qui s'accomplit.
Oui, merci. On a des personnes avec des belles compétences qui travaillent
Alors, on dit aux gens de ne pas rester dans l'isolement. Il y a des services.
Il y a des services. C'est demandé au départ, c'est exigeant, mais c'est payant.
Et ça vaut la peine.
Oui,
ça change des vies.
Voilà, on prend une petite pause et on est de retour tout de suite après à l'émission Point de vue.
Vous écoutez Point de vue avec Michel Poulain et Diane Felice.
Notre rendez-vous hebdomadaire avec notre marraine de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, Mme Pauline Martin. Bonjour,
oui.
Pauline.
Bonjour, cher neveu.
Ben oui, c'est vrai. Vous êtes
notre
marraine.
Ben oui, une marraine.
Neveu
marraine.
Et nièce. Aujourd'hui, on va parler de d'autres problèmes qui peuvent survenir à cause d'une déficience visuelle.
Tout à fait, oui. C'est les risques de chute. Et les fractures. Chez les aînés, c'est très, très important. Les statistiques, Michel, 40 % des fractures de la hanche chez les personnes âgées sont associées à la déficience visuelle. Il y a des études qui ont démontré la corrélation entre les fractures de la hanche et la déficience visuelle, et ça nous dit l'importance d'agir rapidement à ce niveau-là pour les éviter. Les aînés qui ont un déficit ou un trouble visuel sont 1,5 à 2 fois plus à risque de chuter que ceux qui n'en ont pas. Alors, il est évident que le risque de chute augmente avec l'aggravation de la perte de vision. Et le vieillissement de la population a une incidence directe sur le taux des personnes qui présentent une déficience visuelle. On l'a vu dans nos chroniques précédentes, parce qu'il y a plusieurs pathologies visuelles qui sont associées au phénomène de vieillissement, notamment la dégénérescence maculaire
qui est
liée
à l'âge. La plus connue,
oui. Et celle qui a fait une vie de ma mère, quelque chose de beaucoup plus dramatique, et dont des membres de ma famille sont atteints aussi. Il y a le glaucome et la cataracte. À l'échelle mondiale, les trois principales causes de déficience visuelle, ce sont les trois suivantes. Des défauts de réfraction non corrigés, bon, ça comprend la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme. Une cataracte non opérée, 33 %. Puis ça, la cataracte, c'est important. Parce que des fois, ça se développe tellement lentement que la personne ne s'en rend pas vraiment compte que ça, son acuité visuelle a baissé. Ça, c'est beaucoup, beaucoup à surveiller. Et le glaucome 2 % qui, lui, est identifié, évidemment, par le spécialiste au moment des examens.
Je souhaite en profiter, Pauline, quand on parle de ça, de le déni que les personnes âgées peuvent avoir en regard de... la perte de vision...
Bien, pas seulement de la perte de vision, je te dirais, quand on vieillit, on a un gros, gros déni de tout, là. Mais effectivement, au niveau de la perte de vision, bien, moi, je l'ai vécu, tu sais. Si tu veux, je peux donner même mon propre exemple personnel. Moi, c'était dans la cinquantaine. Je pensais pas, je ne savais pas qu'on pouvait développer une cataracte aussi rapidement dans la cinquantaine. Alors, je voyais bien que je voyais moins, mais j'ai pas réalisé à quel point je ne voyais plus. C'est quand j'ai eu mon opération, j'ai fait « Ah, c'est ça, voir! » Parce que avec les années, la cornée, c'est un tissu organique, ça jaunit, imagine-toi donc. Ah. Il y a tout jauni hein, quand on vieillit. Des photos, des lidaires. Mais effectivement, quand tu fais faire ton opération de la cataracte, c'est qu'ils enlèvent, en fait, c'est au niveau du cristallin. Le cristallin s'opacifie et il est jauni un peu. Alors, quand j'ai eu mon intervention, on m'a fait un œil, un premier œil. C'est rare qu'on fait les deux yeux à la fois. La plupart du temps, c'est un œil. Et là, j'allais me mettre dans ma porte arrière. Puis là, je fermais un œil, puis je voyais la porte de mon cabanon blanche. Puis si je fermais l'autre œil, je la voyais jaune. C'est à ce point-là. Alors, quand tu subis ton opération... tu redécouvres le monde. Alors, soyez attentifs. Et souvent, la télévision aussi est un bon indicatif. Si vous vous rapprochez de plus en plus de votre télévision, là, ça se peut que dans la cinquantaine, vous fassiez des cataractes. Faut enlever ces mythes-là. Ça peut arriver avant et ça peut même arriver plus jeune. Alors, ça surveiller, effectivement. Si on revient aux statistiques, ça indique que près de 80 % de toutes les déficiences visuelles dans le monde peuvent être prévenues ou guéries. C'est-à-dire...
80 %,
ça peut être prévenu si vous manifestez à temps auprès de votre optométriste, votre ophtalmologiste. D'abord, premièrement, prenez la peine d'y aller. Là.
Aux faites deux pas... ans,
ah, oui, je vais y aller, là. Je vais y aller. Oui. Oui, effectivement, vieillissant, c'est aux deux ans. Mais si vous avez des problèmes, ça peut être plus fréquent, évidemment. Mais arrêtez de remettre ce rendez-vous-là, parce qu'il est vraiment important. Parce que si vous les prenez à temps, vos problèmes, ils vont être contrôlés, puis à la limite, ils vont être... plus que contrôler, il pourrait même régresser et même voir être guéri. Alors, ce ne sont pas toutes les pathologies dont on vient de parler qui sont courantes. Ce ne sont pas des choses à négliger parce que, comme je disais, le temps est une chose importante, mais vous perdez la notion de ce que pourrait être votre vue à son maximum. Et quand vous le retrouvez, là, vous êtes content d'avoir fait les démarches. Alors, il faut être responsable. On est responsable le plus possible dans toutes les sphères de notre vie. Mais par rapport à notre santé, c'est extrêmement important. Puis je reprends ton expression de déni. C'est pas le temps d'en faire du déni. Qu'il s'agisse de nos dents, qu'il s'agisse de tout notre corps, oui, il y a une tendance à nier les effets de l'âge parce qu'on veut pas le savoir, mais c'est pas vrai que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Ce qu'on ne sait pas, ça peut faire bien mal, puis ça peut faire bien du dégât.
Et à long terme, à court, moyen, long terme, ça évite d'autres problèmes, comme on a parlé tout à l'heure, des problèmes de chute
et tout. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et vous mettez vous-même plus en sécurité, vous mettez votre entourage en sécurité, mais si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour les autres qui sont autour de vous, puis qui vont apprécier que vous vous occupiez bien de vous-même.
Donc, en conclusion, c'est nécessaire... de rencontrer son optométriste. Et si les problèmes sont plus importants, bien, il y a l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais le chemin, c'est vraiment au niveau de votre optométriste.
L'optométriste, l'ophtalmologiste, qui, lui, peut être référé, effectivement, par l'optométriste. Et à ce moment-là, l'Institut Nazareth et Louis Braille, vous pouvez appeler aussi, vous avez ce chemin-là qui est effectivement le chemin normal, mais vous pouvez aussi appeler à l'Institut pour avoir des informations.
Merci, Mme Martin.
Ça me fait tellement
plaisir. À la semaine
prochaine.
Vous êtes à l'émission Point de vue sur les ondes de Canal M. Nous sommes en compagnie de Maître Marie-Douce Fugère.
Madame Fugère, la place du travail dans votre vie est un élément majeur dans votre existence et certainement que vous rencontrez des obstacles.
Bien sûr. Alors, on ne vit pas dans un monde parfait, du moins pas encore. Un jour, on y arrivera peut-être. alors, bien sûr, il y a des obstacles. D'abord, c'est sûr, au niveau disons, des préjugés que les employeurs peuvent avoir envers une personne avec une déficience visuelle. Donc, Je pense que c'est important, même déjà au départ dans les entrevues, d'arriver à désamorcer les craintes qui sont normales, parce que ce n'est pas toujours, que c'est pas tout le monde qui a la chance, l'immense privilège, de rencontrer une personne avec une déficience visuelle. mais donc voilà, faut faire de la sensibilisation pour que tous les employeurs aient le goût de nous engager, pour dans le fond leur dire à quel point maintenant c'est beaucoup plus simple que ce l'était. C'est pas automatique, on peut pas tout faire, mais on peut en faire un très grand bout, on va dire ça comme ça. Maintenant, au niveau des obstacles, vous voyez, moi, dans ma façon de fonctionner au jour le jour, dans mon ancien emploi, il y en avait un qui était un petit peu plus achalant au jour le jour pour moi. C'est-à-dire que malgré tout, les outils qu'on a, moi, je suis capable de prendre connaissance de dossiers papier sans problème, tant qu'ils sont ordigraphiés. Donc, quand c'est écrit à la main, je n'ai pas d'outils qui peuvent me permettre d'en prendre connaissance. Donc, j'ai pas de... Donc, mon scanner, quand je scanne un document, il y a un système de reconnaissance de caractère qui est capable d'aller chercher tout ce qui est écrit à l'ordinateur, ordigraphié, mais pas ce qui est calligraphié. Or, moi, je travaillais, mon dernier emploi, je travaillais à l'Assurance automobile du Québec en sécurité routière. Donc, tout ce qui était permis de conduire, notamment des dossiers médicaux, donc que je devais prendre connaissance. Donc, c'était quand même un obstacle un peu fatigant au jour le jour. La stratégie que j'ai utilisée dans ce cas-là, c'est une stratégie de partage. C'est-à-dire qu'à l'Assurance automobile, à la Direction des affaires juridiques, on a des stagiaires. Alors, des stagiaires du barreau. Alors, l'échange que je faisais avec eux, c'est « Alors, toi, stagiaire, tu me permets d'utiliser tes yeux pour lire. En échange, je t'implique dans mes dossiers. » Donc, ça faisait un échange. Moi, je suis un peu pédagogique, j'aime ça, faire de l'échange avec des stagiaires pour montrer ce que j'ai, partager mon expérience, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, c'était donnant-donnant. La personne, bon, parfois, elle devait me lire des dossiers médicaux qui pouvaient être très pénibles et, disons-le, un peu ennuyants pour eux, mais... Au moins, ça permettait de les mettre dans un contexte et ils comprenaient pourquoi j'avais besoin d'en prendre connaissance. Donc, c'était une des stratégies que j'utilisais pour ces obstacles-là.
Et avec les collègues de travail, ça se passe comment?
Les collègues de travail qu'on commence, mais c'est un peu comme les employeurs. Dans les collègues de travail qu'on commence, faut réduire les craintes. Voyez, dans mes dernières équipes de travail, je sais que quand j'ai rentré à l'Assemblée nationale, mes collègues m'ont dit finalement, se sont, ri d'eux après quelques mois en disant « Ah, quand tu es rentrée, Marie-Douce, on essayait de ne pas dire le mot « voir » parce qu'on était mal à l'aise. Oui. » Alors, vous voyez comment, des fois, on part de loin. Alors, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à utiliser le verbe « voir » avec une personne qui est non-voyante. C'est tout naturellement dans notre vocabulaire usuel. Mais donc, voilà, il faut désamorcer les craintes. Il faut aussi faire un, dans le fond, regarder ce que moi, je peux pas faire qu'est-ce qui est dans les tâches qui est vraiment plus compliqué, qui va me prendre beaucoup trop de temps par rapport à ce que je peux fournir ailleurs. Donc, parfois, on finit par faire un vrai échange d'équipe où moi, je vais aller donner mon 100% sur des tâches qui me sont très faciles ou qui sont plus faciles et parfois je vais laisser à d'autres tâches plus, justement parfois ou qui prennent plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses écrites à la main, par exemple.
Vous êtes une jeune femme, vous êtes de la nouvelle génération, vous êtes même partie prenante de l'aile jeunesse de la Fondation en vue de l'Institut de Nazareth et Louis Braille. Est-ce que la technologie est venue changer beaucoup de choses? Tant au niveau du travail que dans votre vie personnelle?
Définitivement, si ce n'est que dans mes études, je pense qu'une personne qui a fait son droit dans les années 80-90 et qui a une déficience visuelle utilisait, je pense qu'ils enregistraient les notes de cours. J'ai pu discuter il y a plusieurs années de ça, là, mais avec notamment Maître Bell qui travaille maintenant chez Justice Canada. Alors, Ça pouvait être complexe, juste la recherche de jurisprudence. Maintenant, tout est sur Internet. Hein. Donc, avec les systèmes de synthèse vocale, des revues d'écran, ça permet d'aller facilement faire de la recherche juridique. Ça permet de facilement prendre connaissance d'un petit peu tout, la doctrine dont on a besoin. Faire de la rédaction, ça reste quand même facile avec l'ordinateur. Donc, je pense que définitivement, ça change beaucoup de choses. Au plan personnel, je vous dirais que c'est au jour le jour, là, je ne me passerai pas de mon iPhone. Si ce n'est que pour prendre connaissance de la littérature, donc lire un bon roman, oui, j'utilise le verbe lire, même si c'est mon téléphone qui me le lit, ou si j'utilise les documents fournis par Vues et Voix, c'est quand même prendre connaissance d'un bon roman, ça reste au plan personnel, un plaisir que je n'aurais pas pu nécessairement avoir il y a quelques années, là.
Si on revient sur le marché du travail, quel conseil donner à des employeurs?
Alors, écoutez, les employeurs, je pense que je comprends qu'il y a des craintes parce qu'être gestionnaire, ce n'est pas évident. Le message que je veux leur envoyer, c'est que ça vaut la peine. C'est que Une fois le petit moment d'adaptation passé, les gens oublient que j'ai une déficience visuelle. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit qu'à long terme, avoir une personne avec une déficience visuelle, en fait, avoir de la diversité dans une équipe, ça va resserrer les liens de l'équipe souvent parce que c'est une personne qui est différente, c'est une personne, justement, le projet d'équipe d'adapter, ça permet de resserrer les liens. Mais personnellement, je vous dirais d'oser que ce n'est pas si compliqué que ça.
Les craintes qui sont les plus souvent nommées, quelles sont-elles?
Justement, les craintes d'adaptation, les craintes que ce ne soit pas possible d'adapter les tâches voulues. Mais je pense que les craintes sont beaucoup pas nommées. Les craintes sont beaucoup basées sur les préjugés ou ce que les gens pensent que c'est une personne vivant avec une déficience visuelle. Vous savez, une personne qui n'a jamais rencontré une personne vivant avec une déficience visuelle, peut-être qu'ils ne peuvent pas s'imaginer dans la position de cette personne-là. Donc, s'imaginer perdre ses yeux, je pense qu'il y a dans notre monde qui est beaucoup basé sur la vue, c'est difficile pour une personne de se dire qu'il pourra continuer de vivre et de faire ses tâches au travail, mais même dans la vie personnelle. Donc, je pense qu'il y a des craintes beaucoup sur...
Qui sont projetées
vers les
autres.
Qui
sont non fondées pour la plupart.
Bien, c'est mon avis. Maintenant, moi, je suis une personne qui a toujours vécu avec une déficience visuelle, donc c'est sûr que pour moi, c'est difficile de me mettre à la place d'une personne voyante, bien que mon conjoint est voyant, mais j'utilise le terme voyant ici vraiment pas péjorativement, d'ailleurs. Mais voilà.
Vous nous avez apporté de la musique, Marie-Douce.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, je vous ai apporté une chanson que j'ai écoutée en boucle du temps de mon adolescence. Donc, « Mes aïeux qui nous mènent », c'est une chanson qui était, je me souviens plus sur lequel de leurs deux premiers albums, parce que ces deux albums-là, je les ai rencontrés dans ma vie. J'avais à peu près 14 ans et je pense qu'un jour, ma grande sœur a arrêté de faire des boutons pour l'acné. Elle a fait des boutons parce qu'elle n'était plus capable d'entendre mes aïeux tourner dans la maison. Alors, encore une fois, mes excuses à ma grande sœur. Donc, pour la jeune ado que j'étais naïve et qui avait le goût de bouger, cette chanson-là m'a beaucoup inspirée pendant plusieurs années.
Alors, c'est de l'album Entre les branches.
Et voilà.
Avec mes aïeux, on y va.
C'est clair, le navire a perdu le cap. La marchandise humaine est entraînée dans la dérape. Les médias manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Dans une soirée mondaine mondiale, capitaine Carnassier qui joue aux cartes notre capitale, à tribord un sommet de glace a déchiré la carapace. Rapace! Partant mon canot, d'écorce à mi, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans.
C'est l'abandon qui nous mène.
Maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène.
Maintenant. SOS aux solidarités. Y'a un trou béant dedans la coque de ce gros bateau monté en toc. Des larmes synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort sévit, suivez-moi, je pense donc je nuis. Je nuis. En partant mon canot des Corsamis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans, quand on aura 100 ans,
c'est l'abandon qui nous mène.
Maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène.
Maintenant,
c'est l'abandon qui nous mène.
Maintenant, bon.
C'est le courage qui nous mène.
Mène. En partant mon canot d'écorce à mi, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans, quand on aura 100 quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura. Embarquant mon canot, les corses amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans.
De retour à Point de vue avec notre invité, Maître Marie-Douce Fugère. Diane, cette chanson, elle est en plein sur la personnalité de Marie-Douce.
Oui, tout à fait.
Le courage, on va ramer jusqu'à temps qu'on ait 100 ans. Ça, c'est Marie-Douce Fugère.
Tout en soleil jusqu'à cet âge.
Merci de nous avoir apporté cette pièce. Et c'est toujours intéressant à chaque émission, mesdames, messieurs, d'avoir le choix musical de nos invités.
C'est tout un exercice, hein, quand même. Je dois vous dire que vous m'avez fait chercher dans qu'est-ce que je voulais apporter, qu'est-ce qui me représentait. J'ai même fait un post Facebook sur qu'est-ce que les gens en pensaient. J'ai eu des beaux commentaires.
Bon. Mais merci de nous avoir apporté cette chanson.
Madame Fugère, justement, quand on écoutait votre chanson, on a eu quelques discussions et vous nous avez dit que vous avez un chien depuis pas très longtemps.
Alors, ça fait 2 ans et demi. Alors, il y a 2 ans et demi, je suis allée chez Mira, alors, pour aller me chercher un chien guide qui s'appelle Tia. Alors, c'est une jeune, on appelle ça un Saint-Pierre. C'est une sorte de chien mélangé labrador, bouvier bernois qui a maintenant 4 ans et demi.
Et qu'est-ce qui vous a amené à aller chercher ce chien et qu'est-ce que ça change dans votre vie?
Alors, ce qui m'a amené à aller chercher le chien guide, j'aime beaucoup les chiens au départ. Alors, peu importe, je pense que dans ma vie, je serais allée chercher un chien guide, pas guide, pour mon quotidien. Bon, tant qu'à aller chercher un chien pas guide, on va réfléchir à l'idée d'aller chercher un chien qui pourrait être utile en même temps, que je pourrais amener partout et qui pourrait faciliter ma vie. Donc, j'ai fait cette réflexion-là. J'ai parlé beaucoup, j'ai discuté beaucoup avec des gens autour de moi qui en avaient sur les avantages, les désavantages d'aller chercher un chien guide. Et j'ai pris cette décision-là d'aller chez Mira parce que je trouvais que l'autonomie qu'elle pouvait apporter de plus le chien guide, juste la facilité des déplacements pouvait être quelque chose de très appréciable pour moi dans ma vie.
Et vous me disiez également que ce n'est pas Walt Disney tous les jours d'avoir
un chien guide. Non. Alors, les gens pensent que d'avoir un chien guide, ça facilite les choses, puis que ça change une vie de tout au tout. C'est pas mon discours. Alors, parce que j'étais déjà active avant. Alors, je suis allée chercher Tia, j'étais déjà allée à Québec, j'étais déjà revenue de Québec. Donc, j'avais déjà fait plusieurs choses avec ma canne blanche. Le chien guide va faciliter la vie dans le sens où quand on cherche un objectif particulier, les chiens guides sont capables d'aller chercher, disons, un escalier. Je lui dis escalier, elle va me trouver un escalier. Elle était capable d'aller me trouver une porte quand je lui dis intérieur, dehors. Donc, des repères à gauche, à droite. Elle est capable d'aller faire ça, ce qui va, disons, être plus précis que la canne blanche. Par contre, avec la canne blanche, j'ai des repères tactiles que j'ai pu avec le chien guide. Il y a aussi des avantages au chien guide parce que je vous dirais qu'après une grosse journée au bureau où elle est tranquille toute la journée dans mon bureau, si je veux aller dans un 5 à 7,
disons, là, c'est plus compliqué.
Disons que je suis mieux de prendre une bonne marche. Disons que le bar devrait être un petit peu plus loin du bureau que juste à côté. Donc, pour lui changer les idées, lui donner l'occasion de guider un peu, un chien guide, ça reste un être vivant qui a besoin d'un équilibre. Donc, elle a besoin, oui, d'être tranquille, mais de pouvoir donner son fou. En tout cas, pour mon chien guide, c'est ça. C'est sûr que tous les chiens guides sont différents. C'est des êtres vivants. Il faut s'adapter. Puis un chien guide, c'est pas tous les jours performant à 100%.
C'est un être vivant.
Il y a des jours où ben,
ça va et d'autres jours, ça va moins bien.
C'est ça. Il y a des jours où elle est malade. Il y a des jours où, cette année-ci, le printemps arrive, c'est boiteux dehors. On boude un peu parce qu'on aimait ça, nous, la neige. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver.
Est-ce que l'accès est facile dans les endroits publics maintenant? Est-ce que les gens acceptent mieux maintenant dans des restaurants, des choses comme ça?
Je vous dirais que généralement, là, au Québec, on est pas mal bon. Vraiment, au Québec, je pense qu'on peut être fiers de nous. Comme société, les chiens guides sont pas mal acceptés partout. Il reste, c'est sûr, des gens à qui il faut sensibiliser. Je vous dirais que mes problématiques d'accès sont beaucoup chez les nouveaux arrivants parce que, bien entendu, c'est pas partout pareil. Une personne qui arrive de certains pays, notamment d'Afrique ou d'Asie, les chiens guides, c'est pas très reconnu. Donc, la personne n'est pas nécessairement au courant que j'ai le droit de rentrer au restaurant ou que je peux aller dans un taxi. Donc, je vous dirais vraiment les endroits où j'ai vécu un peu plus de difficultés, c'est dans les taxis, dans certains restaurants. Mais jusqu'à maintenant, on a réussi à désamorcer pas mal tout le temps.
De façon générale, ça va très bien. Il nous reste à peine 1 minute et demie, Marie-Douce. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Oh, pour l'avenir, une vie professionnelle remplie de défis, pas trop en même temps, parce que je veux avoir de l'énergie pour faire d'autres choses, pour faire du bénévolat notamment, mais pour m'investir aussi dans ma vie personnelle. J'ai mon conjoint avec qui je me marie à l'automne prochain, donc c'est de s'investir aussi dans toutes mes sphères de ma vie, d'avoir un équilibre là-dedans et de garder le sourire et la bonne humeur. Donc, pas trop de drame.
Bien, on vous souhaite un beau mariage.
Merci.
Hein? Beaucoup de bonheur.
Votre conjoint qui est voyant, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Merci infiniment, Marie-Douce Fugère, d'être venue nous voir. Bonne chance et longue vie.
Merci pour l'invitation.
Et gardez
encore
votre sourire.
Merci pour le soleil.
Alors, c'est déjà tout pour notre émission Point de vue, proposée par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres invités, dont notre marraine Pauline Martin et un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ici Michel Poulain.
Ici Diane Felici.
Bonne semaine, mesdames, messieurs.
Point de vue est présenté par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille en collaboration avec Canal M.